France Culture.
Le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement de Sébastien Lecornu II aura finalement survécu à son baptême du feu. Les deux motions de censure déposées ce matin ont été rejetées, dont l'une de justesse, 18 voix d'écart seulement. Nous serons à l'Assemblée dès le début de ce journal. Et puis avec notre invité, on parlera réforme des retraites, puisque c'est bien l'annonce cette semaine de sa suspension qui a permis donc au Premier ministre d'échapper au vote sanctionné. L'actualité en France, toujours, c'est encore cette étude sidérante publiée ce matin et qui révèle l'ampleur de la traite des êtres humains dans l'Hexagone. Enfin, l'actualité à l'étranger. On parlera tout d'abord de la difficulté de plus en plus criante de faire impliquer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et puis, on tâchera de comprendre ce qui se trame derrière la menace ouverte de Donald Trump de frapper le sol vénézuélien. Le suspense a donc pris fin il y a maintenant un peu moins d'une heure. Le gouvernement de Sébastien Lecornu a réussi à échapper aux motions de censure, soit les deux derniers obstacles avant d'entamer l'examen du budget. Faut-il en déduire pour autant que l'heure du compromis politique serait enfin venue dans une France non seulement fracturée mais aussi obsédée par la présidentielle? Rien n'est moins sûr, en témoigne le résultat extrêmement serré du vote de ce matin, sans compter qu'à plus long terme, évidemment, la mission exécutive annonce encore compliquée. Nicolas Ballu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée. En attendant, force est de constater donc que le geste d'Emmanuel Macron de suspendre sa réforme des retraites, cette concession crève-cœur aux allures de tentative un peu désespérée de sauver son dernier gouvernement, a bel et bien fonctionné, Nicolas.
Oui, alors, à vrai dire, seul le suspense demeurait pour la censure déposée par la France insoumise, LFI ne votant pas à la censure du RN. Au fur et à mesure des heures qui se sont passées unité par unité, le nombre de ceux qui se disaient prêts à voter cette motion semblait augmenter. Le doute semblait permis concernant le nombre de députés de droite également qui allaient passer outre les consignes de vote. Et finalement, pas de surprise, 7 députés socialistes et un seul député de la droite républicaine ont voté la censure. La victoire de Sébastien Lecornu, un peu plus large que prévu, reste relative selon le député Jean-Philippe Tanguy, député RN.
Ce pacte de lâcheté est consternant, mais au moins les masques tombent, la réalité apparaît telle que nous la savions intimement. Il n'y a rien à attendre des députés du système, de tous ceux qui empêchent, qui ont pour seule mission dans leur petite vie d'empêcher le Rassemblement National d'accéder au pouvoir et de résoudre les problèmes.
Ce sont les Français qui vont souffrir d'un budget cruel, selon la patronne des députés LFI, Mathilde Panot. Le débat est désormais dans l'hémicycle.
Nous lançons un appel solennel au pays. Ne vous résignez pas, ne perdez pas courage, ne vous divisez pas à la base. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels.
Mathilde Panot qui appelle également les militants et sympathisants socialistes qui auraient été déçus par l'attitude et les consignes de vote, la décision de non-censure du PS, à aller rejoindre un peu plus tôt dans l'hémicycle le patron des députés PS. Laurent Baumel avait été sans ambiguïté face à Sébastien Lecornu. Nous croyons à la valeur du compromis, disait-il, la pérennité du vote est liée au respect des engagements de Sébastien Lecornu.
Merci Nicolas Ballu en direct de l'Assemblée avec Céline Garibi pour les moyens techniques. Alors on l'a dit, c'est bien contre la promesse de suspendre la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle que le Parti Socialiste a décidé ce matin de laisser sa chance au Premier ministre Sébastien Lecornu. Reste à savoir concrètement comment cette suspension pourra se traduire dans les faits. Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Michael Zemmour, enseignant chercheur à l'Université Lumière Lyon 2 et économiste au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Au-delà de l'enjeu strictement politique donc que représentait cette suspension de la réforme des retraites, pourriez-vous nous expliquer pour commencer qui sera concerné et dans quelle mesure ?
Alors, le portrait robot qu'on peut faire de la décision qui est annoncée, c'est en fait un décalage de l'application de la réforme Borne à partir de maintenant, un décalage d'une génération. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 62 ans et 9 mois pour les personnes qui partent aujourd'hui à la retraite. La prochaine marche d'escalier, ça devait être 63 ans en janvier 2027 et ça sera 63 ans au début de l'année 2028. Et ensuite, la réforme reprend son cours normalement pour arriver à 64 ans et 43 annuités. Du coup, pour l'essentiel des salariés, ça ne change pas les règles, mais ça va changer pour les générations les plus proches de la retraite. les personnes nées entre 1964 et 1968 partiraient 3 mois plus tard, ou pourraient partir 3 mois plus tard, que ce qui avait été initialement annoncé.
On parle de 3,5 millions de personnes.
Alors, il y a 3,5 millions de personnes, pas qui partiraient à 62 ans et 9 mois, parce que certaines partiraient à 63 ans, 63 ans et 6 mois, mais qui partiraient 3 mois plus tôt, pardon, j'ai dit plus tard tout à l'heure, 3 mois plus tôt que ce qui leur avait été initialement annoncé. Il y a à peu près 700 000 personnes par génération, et il y a 5 générations pour qui les règles vont changer. Après, les comportements individuels sont difficiles à déterminer.
Dans sa déclaration de politique générale, Sébastien Lecornu estimait le coût de cette suspension de la réforme à 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard d'euros en 2027. Selon vous, ce calcul est-il correct? Et sait-on seulement d'ailleurs comment il a été construit?
J'ai pas tous les moyens du gouvernement pour le faire, mais les ordres de grandeur semblent corrects. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas cher du tout à l'échelle ni du système de retraite, qui est plutôt de l'ordre de 400 milliards, ni même de l'échelle du budget. Il y a des décisions dans le budget dès pour 2026 qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, le doublement des franchises médicales, je crois que l'ordre de grandeur, c'est de 2 milliards d'euros. Par exemple, la baisse de la taxe exceptionnelle sur les grandes sociétés, l'ordre de grandeur, c'est 4 milliards d'euros. Donc, c'est pas un changement important, et même l'insistance sur le financement de cette mesure, c'est quelque chose qui doit pouvoir se résoudre assez facilement.
En annonçant cette suspension, le Premier ministre a également annoncé l'ouverture d'un nouveau débat donc sur le système de retraite, qui pourrait notamment donner lieu au retour du débat autour de la retraite à points défendue par la CFDT. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consisterait ce changement de calcul et si cela modifierait ou non les grands principes du système de retraite en France ?
Je pense qu'il s'agit d'abord d'occuper un peu le terrain de la discussion pour essayer de ne plus parler de la réforme de 64 ans et parler d'autre chose. Je dis ça parce qu'il est fort peu probable qu'on change de système de retraite avant la présidentielle. Donc s'il devait y avoir une discussion systémique, à mon avis, ça serait plutôt pour le prochain mandat. Le système à points dont il est question et qui avait été envisagé dans la réforme de Jean-Paul Delevoye, c'est un système dans lequel on ne définit pas vos droits en fonction de salaire de référence. On ne vous dit pas que vous avez 50% de votre salaire de référence ou 70%. Mais simplement, chaque année, en travaillant, vous collectez des points. Et au moment d'arriver à la retraite, en fonction de la conjoncture et de votre âge, on vous dit ce à quoi vous avez le droit. L'avantage de ce système, c'est une forme de simplicité et de faciliter les trajectoires professionnelles d'un employeur à l'autre. Une forme d'inconvénient du système, c'est qu'il fait reposer les réformes finalement sur une sorte de pilotage automatique qui a tendance à faire peser l'incertitude sur les assurés davantage que sur le déficit du système.
Une dernière question, cette mesure de suspension donc de la réforme des retraites devra passer par le dépôt d'un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Or, les mesures moins commentées de ce PLFSS donc prévoient d'importantes économies à travers notamment un gel des retraites, des prestations sociales en 2026, mais aussi une augmentation des franchises médicales et bien d'autres mesures encore dans le champ de la santé qui ont d'ailleurs conduit déjà plusieurs fédérations hospitalières à se réunir pour dénoncer, je cite, la pire cure d'économie sur l'hôpital depuis 2010. En d'autres termes, la suspension de la réforme des retraites est-elle l'arbre qui cache la déforestation de la Sécu ?
On peut en effet se poser la question. S'il y avait eu vraiment une suspension définitive de la réforme des retraites, si on s'était arrêté à 62 ans et 9 mois pour tout le monde en disant « on verra ce qui se passe après la présidentielle », ça aurait été un bouger important pour la réforme qui l'aurait remise en cause de moitié. Mais la décision qui a été prise de simplement la conserver en la décalant d'un an, c'est une décision relativement mineure. Et au regard de toutes les autres mesures que vous avez décrites, les franchises médicales, le geste de prestations sociales, chacun fera son avis politiquement, mais on peut pas dire que ça soit une mesure qui rende franchement social un budget qui est franchement antisocial.
C'est bien compris. Merci Michael Zemmour, enseignant-chercheur donc à l'Université Lumière Paris Lyon 2 et économiste au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Les chiffres sont stupéfiants et révèlent l'ampleur de la traite des êtres humains en France.
Oui, selon une enquête publiée ce matin, près de 7300 personnes ont été victimes l'an dernier d'exploitation par le travail, notamment de domestique, mais aussi à des fins d'activité criminelle ou de mendicité forcée, mais plus encore d'exploitation sexuelle en très grande majorité des femmes. C'est ce que révèle cette étude, donc basée sur le repérage d'associations qui ont pu prendre en charge les deux tiers de ces victimes. Les précisions d'Anne Fauquemberg.
Parmi les personnes repérées et accompagnées l'an dernier par les 44 associations participant à cette enquête, 86% étaient effectivement victimes d'exploitation sexuelle, ce qui représente un peu plus de 4800 personnes. 14% d'entre elles étaient encore mineures en 2024 et près d'un tiers ont été exploitées par un membre de leur famille et souvent dans le cadre d'un réseau qui a organisé le transfert vers la France. 1223 personnes arrivent ainsi du Nigeria uniquement pour être exploitées sexuellement. On peut parler de hausse du proxénétisme avec aussi des petits réseaux locaux qui s'organisent partout sur le territoire dans une interdépendance croissante avec le trafic de stupéfiants. La fondation CEL, qui milite pour l'abolition de la prostitution, avait documenté cet angle mort institutionnel en juin dernier. Elle indiquait, je cite, « Les proxénètes sont à la fois trafiquants de drogue tout en proposant des victimes de prostitution à leurs connaissances et aux membres du réseau, constituant un cercle de confiance qui s'auto-alimente. » Plus de 8 victimes d'exploitation sexuelle sur 10 sont ainsi en situation d'addiction à des médicaments ou des drogues fournies par ceux qui les exploitent afin de les rendre dépendantes et de les désinhiber. Les conséquences durables sur la santé de ces polyconsommations et polyaddictions sont une source d'inquiétude majeure pour les associations et les professionnels de santé, précise enfin le rapport de l'AmiProf.
Le couperet est tombé cette semaine sans que l'agence officielle iranienne ne prenne la peine de révéler leur identité.
Et malheureusement, celle-ci ne laissait que peu de place au doute. Ce sont bien Cécile Coller et Jacques Paris, qui ont été condamnés donc à de lourdes peines d'enfermement pour espionnage, respectivement 10 et 6 ans de prison. Les deux Français sont détenus dans les geôles de la République islamique depuis maintenant plus de 3 ans. Alors paradoxalement, cette décision judiciaire pourrait ouvrir la possibilité à une libération en échange de celle d'une Iranienne arrêtée en France. C'était le 28 février dernier et suspectée d'apologie du terrorisme. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
En attendant, c'est encore la peur, bien entendu, qui domine, comme l'ont rappelé les familles des deux ressortissants qui ont pris la parole ce matin.
Ah oui, c'est un appel à l'aide qu'ont délivré les avocats et familles de Cécile Coller et Jacques Paris. La fille de Jacques Paris rapporte les paroles de son père à qui elle a parlé cette semaine.
Mon père est à nouveau à l'isolement depuis 116 jours. Aujourd'hui, je me fais la porte-parole de son épuisement. Mon père m'a dit, je cite, « Je te le dis, parce que c'est la réalité. » Je regarde la mort en face.
Voilà, il faut dire que les conditions des deux Français se sont encore dégradées. On ne sait plus où ils sont enfermés, mais on sait, vous venez de l'entendre, que Jacques Paris est à l'isolement depuis 116 jours, que les deux Français sont dans des cellules éclairées 24 heures sur 24 et qu'ils n'ont pas de douche. Les familles appellent à l'aide, elles le disent haut et fort, elles ne reconnaissent pas les condamnations à 20 ans et 17 ans de prison qui ont été annoncées cette semaine. Ce n'est pas la justice, explique leur avocate Chérine Ardakani.
En l'absence de notification officielle et en l'absence d'accès à un avocat indépendant, eh bien nul de notre côté aujourd'hui est en capacité de dire eh bien que ces peines, en réalité, ont été prononcées et par qui et dans quelles conditions. Qu'évidemment que toute cette procédure-là est une procédure fallacieuse, c'est une farce, c'est une comédie.
Et en conséquence donc, les autorités françaises doivent mettre tous les moyens possibles pour accélérer leur libération. C'est vital, c'est une question de jours.
Merci Nathanaël Charbonnier ainsi qu'à Geoffrey Marianne pour les moyens techniques.
À quand la fin du cauchemar pour les Palestiniens ?
Après l'accord de cessez-le-feu ayant permis la libération des derniers Israéliens vivants de la bande de Gaza, le processus de démilitarisation du Hamas a beau faire partie du plan négocié en Égypte, preuve que la milice islamiste n'a pas été vaincue, pourrait s'avérer beaucoup plus complexe que prévu. Et d'ailleurs, une spirale de violence intestine entre milices parcourt désormais toute l'enclave, preuve là encore que non seulement le Hamas, sorti des entrailles de Gaza, n'a pas été anéanti, mais qu'il fait tout à présent pour s'assurer, toujours avec les mêmes méthodes barbares et le même arsenal de terreur, d'éliminer ses potentiels rivaux. S'ajoute encore à cela la question délicate de la restitution des dépouilles des otages israéliens perdus au milieu d'un paysage de décombres et de ruines, de quoi encourager certains ministres ultranationalistes du gouvernement Netanyahou à pousser à la reprise de la guerre et en attendant à couper d'ores et déjà l'aide humanitaire, en l'occurrence la réouverture l'ouverture du passage de Rafah au sud de l'enclave, point crucial pour l'acheminement de nourriture et de médicaments, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Éric Bégala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour l'heure, le fameux jour d'après pourrait surtout se résumer ainsi, Éric. La trêve, oui, mais pour combien de temps encore?
Alors, pour combien de temps? Ça risque d'être assez court. Même le forum des familles d'otages appelait ce matin le gouvernement israélien, je cite leur communiqué, à cesser immédiatement la mise en œuvre de toute autre étape de l'accord de cessez-le-feu tant que le Hamas continue de violer ouvertement ses obligations concernant le retour de tous les otages et les dépouilles des victimes. Et c'est en effet sur le chapitre du rapatriement des dépouilles d'Israéliens pris en otage, assassinés durant les attaques du 7 octobre ou tués dans les combats que le blocage demeure. Au terme de l'accord, le Hamas devait relâcher tous les otages encore vivants, 20 personnes, mais aussi rendre les corps des 28 Israéliens décédés. Seuls 9 pour le moment ont été rendus, le Hamas expliquant qu'il manquait des ressources matérielles, notamment des engins de levage, pour accéder aux corps des autres otages enfouis sous les ruines des bâtiments ravagés par la guerre ou enterrés dans les tunnels où ils étaient retenus prisonniers. Un argument auquel les Israéliens ne croient pas, ils y croient d'autant moins qu'un porte-parole du Hamas, exprimant hier sur la chaîne Al Jazeera, évoquait la possibilité de chercher en même temps tous les corps, ceux des Israéliens, mais aussi ceux des Palestiniens, il y en aurait plusieurs milliers, ensevelis sous les décombres de Gaza. Reste que le manque de matériel lourd pour effectuer ces recherches est réel. La Turquie a annoncé vouloir dépêcher à Gaza des équipes technique pour prêter main forte. Et les sources égyptiennes confiaient hier au journal libanais Al-Akhbar que des équipes égyptiennes étaient déjà à pied d'œuvre dans la bande de Gaza pour ce faire. En attendant, les autres termes de l'accord ne sont pas non plus mis en œuvre. On est encore loin des 600 camions minimum par jour d'aide humanitaire qui auraient dû rentrer dans l'enclave depuis dimanche. À peine 200 en fait sont entrés en 3 jours. Quant à la phase 2 de l'accord qui prévoit le désarmement du Hamas, les négociations quant à ses modalités d'application n'ont tout simplement pas commencé.
Merci Éric Bégala.
Donald Trump ou décidément une certaine idée de la force.
Faisant fi de toutes les conventions nationales comme internationales, les déclarations du président américain ressemblent, on le sait généralement plus souvent, à une véritable menace qu'à une simple exhortation. Et c'est ainsi qu'hier encore, tout en assumant d'avoir autorisé des actions clandestines de la CIA au Venezuela, le locataire de la Maison Blanche a laissé entendre qu'il pourrait désormais envisager carrément des frappes sur le territoire de son homologue Nicolas Maduro, qu'il accuse régulièrement de diriger un régime narco-terroriste. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Récemment, l'administration américaine a déjà frappé plusieurs embarcations en mer présentées comme celles de narcotrafiquants. Washington a même déployé des navires de guerre, un sous-marin à propulsion nucléaire au large des côtes du Venezuela, toujours officiellement donc dans le cadre d'une opération présentée comme visant le trafic de drogue. Et est-ce véritablement le cas ou bien s'agit-il d'un simple prétexte, Claude, pour s'en prendre directement au régime de Caracas?
Oui, alors c'est vrai que la lutte contre le narcotrafic, c'est en effet le prétexte de ces opérations qui rappellent vraiment les années 80. Vous savez, cette époque à laquelle se réfère généralement Donald Trump lorsqu'il parle de rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors, de fait, Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, après des élections très très contesté. C'est la bête noire de Donald Trump qui a notamment reconnu son opposant Juan Guaido comme président par intérim après la crise électorale en 2019. Corruption, répression, Nicolas Maduro est un quasi paria sur la scène internationale. Mais le Venezuela, c'est surtout la plus grande réserve prouvée de pétrole au monde. Or, les sanctions mises en place par les États-Unis bloquent l'accès à ces ressources pour les compagnies américaines. Et c'est vrai qu'un changement de régime permettrait de rouvrir le marché aux intérêts de Washington. Car pendant ce temps-là, la Chine et la Russie se sont engouffrés au Venezuela. Depuis 20 ans, la Chine a prêté plus de 60 milliards de dollars à Caracas en échange de pétrole et contrôle une partie du secteur énergétique et investit dans les infrastructures. La Russie, elle, via sa compagnie Rosneft, exploite également le pétrole vénézuélien et soutient militairement Nicolas Maduro en fournissant des armes et autres. La milice Wagner y a également été repérée il y a 2 ans. Alors depuis 10 ans, le pays, le Venezuela, traverse une crise vertigineuse. Son économie dépend presque uniquement du pétrole et elle s'est effondrée avec la chute du brut et les sanctions. La pauvreté a poussé plus de 7 millions de personnes à fuir, notamment en Colombie. Et Nicolas Maduro, isolé diplomatiquement, ne tient qu'avec la répression, l'armée et le soutien de la Chine et de la Russie, deux ennemis, là encore, de Washington, de Donald Trump, dont il veut contrer la présence en Amérique latine.
Merci Claude Guibal.
Après plusieurs semaines d'un mouvement de contestation généralisée, l'île de Madagascar, l'un des pays parmi les plus pauvres et les plus corrompus de la planète, se prépare à une nouvelle transition militaire.
Oui, le colonel qui a pris le pouvoir après le vote de destitution du président Rajoelina annonce annoncer qu'il serait investi demain ou quand décidément l'histoire se répète puisque le chef de l'État en fuite avait lui-même accédé une première fois au pouvoir dans des circonstances en tout point similaires par ailleurs, et quand bien même on ignore toujours où se trouve le président, l'ombre présumée de la France dans sa possible exfiltration a ravivé ces derniers jours une colère vivace dans les rues de la capitale contre l'ex-puissance coloniale. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec encore quelques nuages bas possibles au nord de la Seine, partout ailleurs du soleil. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.